Bienvenue dans La mort tout un art. Je suis Lucille Milliard, la réalisatrice. Tous les mois, je m'entretiens avec des artistes qui traitent du sujet de la mort et avec des professionnels du funéraire qui font de leur métier tout un art. J'ai choisi, avec ce projet, de mettre en lumière les initiatives remarquables, locales et humanistes dans le monde du funéraire. C'est parti. La mort, tout un art. L'art de mettre en scène une cérémonie funéraire avec Marine Lanaro. Marine Lanaro est directrice artistique du collectif Grand Dehors, collectif de création en espace public et espace non dédié à Nantes. Depuis 5 ans, le collectif mène un ensemble de créations in situ sur mesure à une thématique ou à un territoire. Il et elle déploient la notion de nouvelle narration et de rituel dans les espaces publics et les espaces non dédiés. Marine Lanaro est également maîtresse de cérémonies funéraires. Dans cet épisode, elle nous parle de sa future création qui s'intitule aujourd'hui « Métamortem ». On va plonger avec elle dans les différentes phases exploratoires à travers la formation de cérémonies funéraires, un voyage à l'autre bout du monde, des rencontres avec des scientifiques et la mise en scène d'un enterrement d'un lieu symbolique à Nantes. Tout ceci n'est pas dans l'ordre, parce que nous le découvrirons avec Marine Lanaro, la linéarité est une conception étriquée de réalité plus complexe. D'ailleurs, on débute avec une phrase phare du spectacle de Métamortem qui est arrivée à la fin de l'entretien.
On croit toujours qu'il y a un avant et un après, avec une belle ligne qui sépare ce qui a été de ce qui sera. Mais moi, je vous parle depuis cette ligne qui relie et qui ne sépare pas. Elle crée des ponts entre les mondes. Elle est le relais générationnel. Nos histoires ne sont ni joyeuses ni tristes. Elles parlent de matière, de leur enfouissement et de leur retour.
Marine, moi je vous suis sur les réseaux. Vous m'aviez envoyé le dossier du spectacle qui s'appelait Dysfonctionnement. Donc ce sera intéressant d'aller voir justement toute cette phase-là de création, de réflexion, parce que Métamortem sortira plutôt en 2025. C'est une création qui verra le jour en 2025, mais déjà vous avez fait des choses dans l'espace public. Vous avez lié votre art de l'espace public, votre envie d'être dans la rue et déjà ce sujet du funéraire. Vous aviez enterré un lieu. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, alors... En fait, cette création, elle a été déjà pensée dans une méthode qu'on appelle la méthode itérative, qui est une méthode en fait où on va extraire de la création, enfin de l'œuvre qu'on essaie de mettre en place, un ensemble de questions. Et en fait, à chaque résidence, on va répondre à juste cette question par un prototype. Alors, il ne faut pas s'accrocher au prototype. Mais néanmoins, à force de répondre à ces questions, quelque chose demeure. Et du coup, à la fin de l'ensemble de cette méthode itérative, on vient créer l'œuvre de ce qui demeure. On a été invité en résidence à Transfert, qui est un site, qui était une zone libre d'exploration artistique, sur le site des anciens abattoirs de la ville de Nantes. Et pendant 3 ans, donc, ils ont eu... une subvention de la mairie pour occuper cet espace. Et nous, on a été accueillis en résidence parce qu'à l'époque, on travaillait principalement sur la question de la solastalgie, donc sur le stress pré-traumatique de la perte de son environnement. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que donc on devait mener une collecte avec l'ensemble des habitants sur ce que ça faisait de passer des anciens abattoirs de la ville de Nantes à... une zone libre d'exploration artistique pendant 3 ans à 18 000 habitants 5 ans après. Et donc cette métamorphose et puis cette mutation-là et ce changement, comment ils le vivaient, et nous on devait récolter ces émotions-là. Et donc on a commencé à le faire, mais on l'a fait sur 2 plans, en interne sur la structure de transfert qui allait perdre, en fait c'était la fin de son aventure, et en externe auprès des habitants. Et puis, les habitants de transfert, au fur et à mesure des collectes qu'on avait, on se rendait compte qu'il y avait un vrai déni de cette fin. On s'est dit que le meilleur moyen pour nous d'orchestrer tout ça, c'était donc d'agir au travers d'un rituel de commémoration, de transfert. Donc ça a été un repas qu'on a fait premièrement autour du remorqueur, avec des jeux pour se rappeler la mémoire de transfert, etc. Et puis on a fait une toute petite cérémonie dans le remorqueur, qui est un bateau qui est au milieu de transfert. Et en fait, ça a été un électrochoc pour l'ensemble des équipes. Il y a eu beaucoup d'émotions, c'est beaucoup d'emplois qui ont été créés, c'est beaucoup de travail aussi avec les publics de territoire, les équipes de quartier, etc. Et donc, on s'est rendu compte en fait qu'on ne voulait plus seulement récolter, mais qu'on voulait agir, et que le seul moyen d'agir, c'était de recréer du rituel. Et puis à la fin de ce repas et de cette petite cérémonie, tout le monde est reparti dans ses bureaux. Et donc ça, c'était en juin 2022. Et puis, on a laissé, avant de partir, des post-it partout dans leurs bureaux sur tout ce qu'ils avaient dit, en fait, toutes les phrases de transfert, etc. On a tout, on en a caché partout, 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 partout. Et donc en fait, ça a infusé pendant aussi longtemps. Le temps qu'ils retrouvent tous ces post-it, etc. Et en octobre de l'année d'après, ils nous ont dit « Il faut que vous reveniez, vous êtes beaucoup occupés de nous, il faut que vous vous occupiez de vous. » Mais nous, on avait bien en tête que de toute façon, c'était vraiment la fin de transfert et qu'on serait ravis d'orchestrer l'enterrement de ce lieu. Donc on voulait pas forcer l'idée, donc en fait, on est revenu en résidence pour faire un travail de recherche, seulement de recherche. Et puis, à la fin, il y a Nicolas Reverdito qui est venu me voir et qui m'a dit « Écoute, Marine, on aimerait bien que vous fassiez quelque chose pour la clôture. On rend les clés en mars. Est-ce que ça vous tente ?» Et à partir de là, ça a été un point de jonction parce que l'initiative était belle pour nous, mais en fait, on n'était pas armés, quoi, sur la question du rituel, de comment accompagner, etc. Et donc, moi, j'ai mis en place... qu'est-ce que l'œuvre m'a fait faire plutôt ? Cette œuvre, du coup, m'a fait partir en Bolivie pour aller étudier les éco-rituels. Donc, c'est des rituels qui sont faits en forêt au nord de la Colombie, via le peuple Kogi, d'enterrement des sécheresses, de pardon auprès de la Pachamama de l'humanité. Et qui ont aussi un rapport à la forêt très fort, et notamment sur la question du brûlis, en fait. On vient à la fois brûler la forêt pour la régénérer, et en même temps, on brûle nos morts. Donc, voilà. Donc, il y a eu cette aventure-là. Et puis, je me suis inscrite dans une formation pour devenir maîtresse de cérémonie funéraire, parce que je m'intéressais à qu'est-ce qu'on dit à ceux qui accompagnent les endeuillés à l'endroit du seuil. Donc j'ai fait l'École nationale des métiers du funéraire à Paris. Donc c'est une formation distancielle et puis une formation présentielle plus un stage que j'ai mené à la coopérative funéraire de Rennes. Et j'ai vu comme un espèce de monde dans lequel je plongeais, où je me disais mais c'est dingue, en fait ça fait 10 ans que je m'arme poétiquement, narrativement, en termes de symbolique, en termes de construire des récits sur mesure, collectés auprès des habitants, enfin... Tout ce que je menais depuis 10 ans, en fait, est exactement ce qui est nécessaire pour orchestrer une cérémonie laïque, personnalisée. Cette formation, elle m'a permis une chose, c'est que elle m'a permis de me situer à un endroit où du geste juste, en fait, on ne peut pas faire n'importe quoi et surtout on ne peut pas faire spectacle au cœur des cérémonies. Et je crois que ça, c'est un espèce de régulateur pour ma création. Parce que je ne cherche pas le spectaculaire, je cherche l'intime et le commun. Ça, c'est spectaculaire en soi, l'intime et le commun, mais c'est pas le spectacle qui prône en tant que maîtresse de cérémonie, c'est pas nous le cœur. On est au service d'une œuvre. Et donc, ça me permet de réguler un peu aussi, des fois, le rapport que l'artiste a par rapport à son œuvre, où il prend plus de place que l'œuvre sur le plateau. Voilà, c'est un peu une ligne de mire qu'on a aussi avec tous les comédiens, etc., enfin, que j'ai réussi à faire passer. Et donc, pour revenir à cet enterrement de transfert, donc là, c'était magnifique parce que la DRAC a subventionné ce geste. Donc c'était trois semaines pleines avec, on va dire, je crois, 12 personnes qui travaillent que pour ça. Donc c'est assez beau, quoi. Pour clôturer, donc il y a eu une énorme phase de collecte auprès de toutes les personnes qui ont vécu transfert sur ces 3 ans. Ils ont ouvert à 4h36 du matin, transfert pour l'ouverture. Il y avait une montgolfière qui partait comme ça. En fait, les gens revenaient d'une ouverture à Nantes. Et donc, il y avait à la fois des familles qui venaient voir ça, des enfants et puis des gens bourrés. Donc, c'était un espèce de raz-de-marée de gens. Donc ça, j'en ai fait une image. Puis l'idée, c'était comment mêler réalité et fiction, puisqu'il y avait quand même un enjeu pour nous, c'était de construire une partie du spectacle. D'un côté, j'ai écrit un texte fictif d'un personnage qui déploie un monde devant les gens. Et puis son monde s'effondre et elle va venir l'enterrer au même titre que Transfert. Ce personnage, c'est assez joli parce que c'est le personnage de la Loba, qui est une femme qui récupère dans les déserts les ossements des loups. Et quand ça fait un squelette complet, elle fait un feu, elle le met au feu et de ça ressort un loup. Qui revit et repart dans le désert. Et donc il y a une loba particulière en Colombie qui est celle qui recycle et donc qui fait des restes de l'humanité un squelette pour recycler l'humanité et la faire re-advenir et lui donner une nouvelle chance en fait d'être quoi. Donc ce personnage chez Loba, et c'est une femme qui a atteint un peu d'amnésie, qui ne se souvient pas et qui va retrouver la mémoire de son monde grâce à nous. Et je le dis quand même parce que c'est très joli. C'est une femme née des débris d'un monde perdu et des désirs d'un monde à naître. Donc la veille de rendre les clés du site, on les a attendus entre chien et loup et on avait fait des faire-part de funérailles, d'invitations qu'on a mis dans les boîtes aux lettres, qu'on a envoyées... avec un peu de terre de transfert dedans, une petite enveloppe, enfin avec pas mal de gestes assez symboliques qui m'ont aussi vachement fait réfléchir en fait au possible dans les cérémonies laïques. En fait, c'est que les deux amènent, nourrissent les deux quoi. Il y a eu une première partie où en fait j'ai raconté en déambulation ritualisée les 3 années de transfert. Il y a eu vraiment toute la vie de transfert qui a été, on va dire, résumée en 35 minutes. Ouais, top chrono. Et c'était assez beau. Et puis, pour le coup, c'était des gens qui étaient super émus, quoi, de revivre aussi ça tous ensemble, etc. Et puis, normalement, on devait être dehors avec toute l'histoire de l'Oba faite sur mesure au paysage de transfert. Mais il y a eu une pluie torrentielle. Donc on s'est caché dans le bateau à l'intérieur du remorqueur et c'était très beau, il y avait des bougies partout. Et donc là l'idée c'était donc une vraie cérémonie d'enterrement des mondes avec d'abord l'Oba qui fait sa création de son monde et puis sa disparition et qui vient témoigner. Et ensuite des personnes qui venaient témoigner de ce qui c'était en fait, de ce que ça avait été et de ce qui leur resterait. Et donc j'ai accompagné aussi l'écriture des oraisons pour qu'il y ait une cohérence quoi. Et puis après il y avait un verre de l'amitié avec un petit cocktail qui s'appelait glissement de terrain parce que voilà on glissait de terrain et la soirée finissait en dansant jusqu'à ce que plus personne, enfin jusqu'à la rendue des clés quoi, le lendemain. Et alors c'est drôle puisque après derrière on est parti à continuer nos résidences comme ça prototypales etc. Donc on a développé la question de la cosmogonie, donc qu'est-ce que c'est que de construire un monde où l'homme ne serait pas au centre, comment on redonne la place aux vivants dans ce monde-là, et puis la destruction, donc le récit eschatologique, qu'est-ce que c'est que de perdre ce monde-là, etc. Et en fait, on a été chercher à plusieurs échelles quelles étaient nos manières d'agir face à la disparition, qu'elles soient intimes ou environnementales, et comment on agit de manière intime et commune face à cette disparition, en partant de l'hypothèse que peut-être en traitant l'un, on traite l'autre. Et qu'aujourd'hui, si le rapport du GIEC n'est pas lu, c'est peut-être en filigrane très lié au fait que la mort n'est pas au cœur de notre cité. Je travaille avec des scientifiques, du coup, aussi, sur la question de l'anthropocène. Et notamment l'équipe STIP de l'INRIA.
INRIA, Institut National de Recherche en Sciences et Technologies du Numérique.
Qui travaille sur les systèmes d'effondrement globaux. Et donc, très, très physiquement, qu'est-ce qui se passe quand quelque chose s'effondre? Et donc, à une échelle micro comme le corps, et macro comme la société, ou même juste... l'humanité.
Juste. Est-ce que tu peux préciser l'anthropocène?
Oui, alors l'anthropocène, c'est la première fois où l'homme vient influencer le comportement environnemental et pas le contraire. C'est très controversé aujourd'hui, l'anthropocène en soi. Et donc, justement, il y avait une journée d'études avec Aurélien Barraud qui disait... qu'en fait, aujourd'hui, il va falloir arrêter de savoir si on peut le faire, mais si c'est souhaitable. Et donc, il disait, est-ce qu'on peut envoyer une fusée dans l'espace? Oui. Est-ce que c'est souhaitable? Non. Et donc, c'était aussi... c'est vraiment un bilan que j'ai eu de ces rencontres-là, puis que je vais continuer à avoir, puisque moi, je travaille avec eux sur les narrations. Donc, comment remettre du sensible dans les narrations que proposent ces rapports qui sont alarmants, quoi. Et donc, comment on remet le jeu et qu'on efface le « on » scientifique, comment on rend ces récits, on va dire, avec une capacité de retrouver de l'empathie envers les autres modes d'existence, en fait, sans parler du vivant, mais même en général, les autres modes d'existence. Et c'est là que se joue aussi une jonction avec... la création autour du funéraire, c'est la question des modes d'existence, en fait. C'est pas parce qu'il n'est plus qu'il n'est plus. C'est pas parce qu'il n'est plus visible qu'il n'est plus. La question que Vinciane Després pose sur qu'est-ce que les morts nous font faire de par leur mort, on peut la poser, en fait, à plein d'échelles, mais en tout cas, renverser ce rapport d'existence... c'est aller à l'encontre de la ligne unifiée du temps et du progrès, et d'une fois que c'est passé, c'est obsolète, et si tu ne vas pas assez vite, c'est que tu ralentis, et d'unifier cette espèce de temps, alors qu'il y a des temps multiples, le temps du cycle, le temps des saisons, il n'y a pas une courbe où il y a passé, présent, futur, et d'ailleurs il y a des pays où il n'y a pas de passé, présent, futur, il y a ce qui demeure et ce qui advient. Et donc voilà, c'est aussi repenser sa manière de faire récit, repenser sa manière... Je globalise un peu, mais en fait, c'est un peu les grandes questions qui traversent et qui font que je vais autant dans le milieu scientifique que dans le milieu funéraire, que dans le milieu de la fiction et des histoires, que la question des narrations aujourd'hui. Et je trouve que l'artiste est très central à plein d'endroits. Ce que j'ai ressenti avec le funéraire, je l'ai ressenti avec les scientifiques, c'est-à-dire... on sait expliquer le comment, mais on sait plus expliquer le pourquoi, donc il nous faut des histoires, quoi. Et c'est Delphine Horviller qui dit « Quelles histoires raconter quand la nuit tombe ?» Parce que quand la nuit tombe, on attend désespérément une histoire pour nous aider à la traverser, celle-ci et celles à venir.
Thank you. C'était You Will Never Walk Alone de RMSTM. Vous écoutez La mort tout un art. On poursuit avec Marine Lanaro, metteuse en scène et célébrante funéraire.
C'est un peu. C'est dans le vaudou. Durant les cérémonies, il y a un poteau qui est au centre qui s'appelle le poteau mi-temps et qui est comme une espèce de flèche qui viendrait traverser toutes les réalités en même temps. Et donc elle symbolise ça et ça fait qu'ils peuvent convoquer n'importe quelle figure. C'est toutes les réalités, toutes les existences en même temps. Et donc c'est un peu ça, Métamortem. C'est la volonté de créer une narration potomitante, quoi. Venir traverser l'ensemble de ces réalités, de ces témoignages par des histoires qui fédèrent et puis qui instaurent la notion de polyphonie. Et enfin... La notion de polyphonie, ça fait pas longtemps que je la porte avec moi, mais elle me hante parce que je trouve qu'elle est très juste. C'est-à-dire, c'est Anat Singh qui dit ça dans Le champignon de la fin du monde. En fait, elle parle de polyphonie en disant qu'en fait, quand elle a écouté pour la première fois une polyphonie, c'était une manière de réciter une histoire tellement forte parce que chaque personne a sa propre individualité. Et en même temps, elles font communion et friction. Et en fait, elles nous permettent d'être témoins de tout ça. Et chaque individualité vient co-construire un espèce de récit. Et en fait, cette narration polyphonique, c'est exactement ce qu'on retrouve dans les cérémonies funéraires. C'est-à-dire, chaque personne vient remembrer une partie de celui ou celle qu'on commémore et lui redonner corps. Il y a beaucoup de réflexions qui gravitent autour de ce spectacle, et notamment sur comment laisser la place aux invisibles d'assister au spectacle, par exemple. Donc, il y a une place vide, toutes les trois places. Alors, les structures avec lesquelles je vais travailler ne vont pas être contentes, parce que ce n'est pas un taux de remplissage très impressionnant. Mais en fait, ça existe, il y a une place pour eux. Comment rendre visible ce qui n'est pas visible et comment faire ressentir d'autres manières d'être. Le spectacle s'appelait Dysfonctionnement, cérémonie mortelle, à notre chute, y aura-t-il une fin? Et puis, donc en janvier, j'ai été invitée au GES, donc c'est le groupe artistique d'exploration scientifique à la scène nationale de l'Hexagone à l'atelier Art Sciences, où 10 scientifiques et 10 artistes sont réunis pendant 4 jours. Mais on va dire que les scientifiques mettent à contribution leur savoir et les artistes mangent allègrement. D'habitude, quand je travaille avec les scientifiques de l'Anthropocène, je repars, je suis déprimée, quoi. Je me dis, putain, mais on va tous mourir, c'est terrible, l'effondrement c'est sûr, la décroissance ça n'existe pas, on ne peut plus revenir en arrière, enfin, il y a vraiment tout un truc où ça devient compliqué. Et là, ça ne m'a pas fait pareil. En fait, je me suis vraiment rendu compte que, grâce à une des scientifiques, une chercheuse du CNRS qui s'appelle Sophie Vaniche, qui est vraiment incroyable, qui travaille sur la Révolution française, et qui, par anachronisme, essaie de comparer ce qui a marché lors de la Révolution et ce qui pourrait, en fait, aujourd'hui, marcher dans un effondrement systémique. Qu'est-ce qui permettrait, en fait, d'orchestrer au mieux cet effondrement? Elle disait, les systèmes d'effondrement à venir, ça va pas arriver d'un coup, ça va pas... Enfin, c'est quand même... c'est pas demain, d'un coup. Ça va arriver en escalier... Et en fait, le seul levier qu'on peut conserver, c'est l'humanité. C'est-à-dire l'ensemble des affects sociaux qui régissent le bon sens et le vivre ensemble. Et que c'est le seul moyen, en fait, d'éviter cet effondrement-là. Enfin, pas de l'éviter, mais en tout cas de l'amortir et de faire en sorte que ça se transforme. Et elle dit, mais ça, nous les scientifiques, on peut rien faire. On ne sait pas faire ça. On ne sait pas créer des affects sociaux. Mais vous, les artistes, vous pouvez le faire. Et je me suis rendu compte, en fait, que ça fait 13 ans que j'essaie de faire ça, en fait. Enfin, que mon œuvre, elle se trouve à cet endroit-là, de créer du commun, dans les espaces publics, dans les espaces non dédiés, sortir des théâtres, rendre le théâtre plus amateur, redonner le pouvoir habitant. Bon, et donc je suis repartie en me disant, c'est génial, je suis à mon endroit. Et j'ai un ami qui s'appelle Élie Guillou, qui est aussi maître de cérémonie funéraire, et qui écrit un livre sur le deuil, que vous avez déjà rencontré à la coopérative funéraire, qui est formidable, et qui a ouvert un collectif de chants funérailles, de chants pour les funérailles, avec des artistes, etc.
On l'entend souvent dans le podcast, La mort tout un art.
Voilà.
On entend ses œuvres.
Eh bien, Élie, je lui dis, voilà, j'ai changé de titre et tout, machin. Je dis, oh, c'est super. Et il me dit, le dysfonctionnement, c'est... Il me dit, c'est mieux comme nom, c'est, ça appelle plus à la métamorphose, ça appelle plus à d'autres manières, en fait, de créer du récit, etc. Il me dit, mais Marine, ton dysfonctionnement, c'est ton point de départ. Et voilà. Et donc, du coup, c'est pour rebondir sur qu'est-ce que va être pour l'instant ce spectacle. C'est donc une machine qui a été créée pour les spectateurs, où quand ils vont arriver, on va leur vendre une machine incroyable qui, en 1 heure et quart de temps, va leur faire comprendre l'émotion du vivant en général, redévelopper leur empathie, remettre en connexion tout le monde... refaire apparaître l'inexistant, le remettre au centre, donner la parole aux invisibles. Enfin, vraiment un truc incroyable. Et ça, en 1 heure et quart, la machine, elle marche super bien. Et quand on présente la machine, elle pète. Et donc, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien. Et il va falloir faire autrement. Et du coup, on va quand même avoir ces mêmes missions, mais plus en low cost, quoi. Enfin, en low tech, quoi. Et donc à la bougie, etc. Et donc c'est une méta-cérémonie, une cérémonie de toutes les cérémonies, où il y aurait un atelier d'écriture et d'expression qui serait mené en amont de chaque représentation sur le territoire en question, sur la question des disparus, et où celles qui le souhaitent pourraient venir témoigner de ce qui a disparu pour eux. Et on le commémorerait ensemble. Et dedans se mêleraient aussi des personnages de fiction qui, eux, ont une histoire à eux à raconter, dont cette Loba, qui reviendra, et H, qui est donc un monsieur qui a perdu la vue, et on va comprendre pourquoi il a perdu la vue. Donc H, c'est l'homme, hein, et ça parle de sa cécité, en fait, à ne plus voir... l'invisible, etc. Et donc on va plonger dans son histoire, et là c'est une vraie fiction avec de la lumière, du son, il interprète tous les personnages, enfin bon voilà, et on mêle en fait cette idée de participation collective, de gestes intimes et de fiction qui viennent se mêler pour finir par une célébration. Donc se posent exactement les questions de... dans ces cérémonies-là, dans cette méta-cérémonie, qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'on garde, de quoi on ne veut plus vraiment, qu'est-ce qu'on laisse pour emmener, pour que l'autre l'emporte ailleurs, et puis comment on fait commun là-dedans. Et donc cette semaine, je suis à la coopérative funéraire pour travailler sur le geste de séparation collectif au cœur des cérémonies. Parce que finalement, pour l'instant, le geste de séparation collectif dans, on va dire, une dramaturgie conventionnelle de la cérémonie laïque est presque une utilité logistique. C'est-à-dire, on vient poser la rose et puis comme ça on sort, comme ça en plus ça libère la salle, et puis c'est le dernier geste avant de partir, et puis ça libère un peu les choses, puis on peut passer devant la famille pour lui dire quelque chose, et puis donc il y a une organisation presque logistique. Et Grégory de la coopérative funéraire parle aussi de comment on peut faire ce geste de séparation, mais pas forcément à la fin. Comment on peut l'orchestrer aussi de manière plus chaotique. Et donc se pose aussi la question du temps au cœur des cérémonies, parce qu'il faut du temps en fait pour faire ces choses-là. Donc toujours la question du cadre, et enfin du fond et de la forme, quoi. Et du coup, c'est les mêmes questions que je me pose dans le spectacle. Cette question du fond, cette question de la forme, cette question de comment réunir autour de chacun des thématiques très différentes, mais dans cette méta-commémoration, comment rendre la scénographie participative, comment faire en sorte que s'il n'y a pas de participation, le spectacle tienne quand même. Parce qu'en fait, on invite, on propose, on suggère, mais on n'impose rien. Et donc voilà, donc c'est un peu les mêmes endroits, plein d'endroits qu'une cérémonie funéraire. C'est-à-dire, nous, on est là pour proposer un cadre pour que ça advienne. Et si ça advient pas, bah, ça advient pas. C'est Delphine Horviller qui dit une citation en latin, c'est « Er volatum altus sustinet ». Elle dit « Nous, les maîtres de cérémonie, nous sommes seulement le filet d'air qui soutient le vol des oiseaux en pleine tempête. Ils volaient avant nous, ils voleront après nous, nous sommes juste là pour alléger à un moment donné, quoi. » Donc c'est comment faire aussi de ce spectacle, cet endroit-là, de c'est pas grave, c'est pas très important, c'est même drôle, s'il faut, c'est même des fois pas très bien fait, parce que c'est maladroit, mais le geste est là. Voilà, on sait pas en fait, et ça va avec ce dysfonctionnement de la machine à péter, et en fait on sait pas faire, donc on va apprendre ensemble, et c'est pas grave, mais voilà, c'est un peu balbutiant. Et aussi, ça permet de détourner un peu le regard spectateur sur cette consommation du spectacle vivant, où en fait on vient pas consommer un spectacle, on vient faire avec, et puis oui, du coup c'est un peu maladroit, des fois il y a des zones de flou, peut-être il y aura des silences. On ne sait pas trop. Et puis des fois, il y aura des vrais moments spectaculaires. Parce qu'il y a une fiction qui se met en route avec un acteur qui est incroyable, etc. Donc voilà un peu où j'en suis là de cette réflexion, quoi.
Et dans votre posture en tant que maîtresse de cérémonie, justement funéraire, ou maîtresse de cérémonie de spectacle, voilà, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous ?
C'est exactement la même chose. Ça rejoint ce que je disais sur la question de être au service de l'œuvre. Je suis là pour orchestrer. Je joue rien d'autre que ce que je suis. Que ce que je suis dans mon action qui est orchestrer ça. De toute manière, il y a quand même quelque chose qui se passe. C'est quand tu mets le costard, toute ta posture change. Enfin, il y a vraiment quelque chose de... Greg, de la coopérative funéraire, le dit aussi. De je marche différemment. Mes mains se tiennent jointes quand je ne parle pas. Une espèce de deuxième peau qui se met sur toi, de passeur, quoi. On te voit, mais pas trop. Tu orchestres, et puis quand il y a un vide, tu prends la place, parce que faut tenir quelque chose. Si tu régules, en même temps, tu gères le temps. Et puis cette question narrative, quoi, c'est toi qui a la possibilité quand même de travailler sur le process de symbolique en fait à mettre en place au cœur de la cérémonie pour que ça fasse sens. Parce que ce qui est hyper intéressant en fait à l'endroit du laïc en tant qu'artiste, c'est que on est obligé de tout justifier, de tout expliquer. Parce qu'il n'y a pas de code. Donc, il faut charger de sens l'ensemble des choses qu'on met en place. Sinon, ça ne fait pas sens. Parce qu'en fait, mettre une boîte de pizza sur un cercueil, si on n'a pas chargé de sens cette boîte de pizza, bah, c'est une boîte de pizza sur un cercueil. Donc, c'est dénué de... C'est vraiment dénué. C'est absurde, quoi. Mais les cérémonies laïques permettent de mettre une boîte de pizza sur un cercueil. J'en parle en connaissance de cause parce que ça m'est arrivé. Et que ça prenne un sens fou. Donc cet endroit-là de sens extrême et de justification du pourquoi et de charger une symbolique à l'endroit en tout cas de la représentation théâtrale, c'est le travail de la représentation théâtrale en fait, de détourner pour magnifier, de sacraliser certaines choses qui... faire des anti-récits en fait, se détourner des récits fondateurs, recréer du petit récit, donner la voix à plusieurs focus dans les narrations, à plusieurs échelles. Par exemple, dans le spectacle, à un moment donné, le printemps vient parler. En tout cas, pour les artistes qui s'intéressent de près ou de loin à la question narrative, sur la fabrication des symboles, et du sens simple, parce qu'encore une fois, il ne faudrait pas que le récit soit trop lourd, sinon il prend trop de place. Donc c'est comment on fait avec, et pas on vient superposer une histoire sur ce qui est. Non, comment quand une famille te raconte le catastrophique stage de troisième du jeune qui vient de décéder, qui était dans une pizzeria, en fait, ça devient un symbole de cette cérémonie-là, alors qu'a priori, c'est une pizza. Enfin, et en fait, c'est devenu un symbole à cette cérémonie-là. Donc,
Du coup, c'est vous qui amenez aussi cette histoire avec cet objet ?
Bah là, par exemple, sur cette histoire-là, je vais taire les noms, parce qu'il y a une notion d'anonymat, mais c'est un jeune garçon qui s'est pendu dans la forêt. Il avait un spectre autistique. Et il a eu du mal à s'adapter. Et il était très conscient de son inadaptation dans ce monde-là. Et du coup, les parents m'ont raconté, mais par des gestes un peu anodins, c'est-à-dire, au début, je donnais des chocolats et puis un café à la famille. Et puis en fait, quand il y a eu les chocolats, ils ont commencé à rigoler parce que c'était un enfant qui avait un appareil dentaire. Et dès qu'il mangeait du chocolat, il montrait le butin entre les rails de l'appareil. Donc il commence à en parler. Et puis en fait, c'est de la maïotique qu'on fait, mais c'est... Ah bon, il faisait ça. Bah, disons, il avait l'air marrant. Il faisait quoi, enfin, c'est... Et en fait, il me raconte que... À son stage de troisième, il adore les pizzas, donc il le fait dans une pizzeria. En fait, toutes les pizzas qu'il livre arrivent chez le client ou la cliente défoncée, quoi. Et donc le directeur le convoque et lui demande de lui montrer comment il fait. Et il dit, c'est simple, je prends le carton de pizza, je le mets sous mon bras et puis je vais le livrer. Donc il le met à la verticale sous son bras. Et je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Et il dit, c'est plus pratique. Et en fait, moi, je me suis servi de cette... Enfin, c'était une super image, parce que dans l'ensemble des choses que j'avais entendues de cet enfant, c'était quelqu'un toujours un pas à côté de la réalité, quoi. Il avait des clés avec des cadenas, et dès qu'il trouvait des clés et des cadenas, il essayait de voir s'il n'y en avait pas certains qui s'ouvraient. C'était des bruits super embêtants avec des stylos, des bouts de papier. Enfin, il avait plein de tocs un peu particuliers. Et en fait, je me suis servie de ce que dit Vinciane Després sur qu'est-ce que les morts nous font faire, mais plutôt qu'est-ce qu'ils nous enseignent aussi. Et donc j'ai essayé de réfléchir aussi à comment... Parce qu'on ne pouvait pas taire, en fait, cette manière d'observer le réel qui était un millimètre un peu plus à droite de la réalité, quoi. Et j'avais pas envie de la taire, et la famille non plus. Et donc, j'ai pensé aussi me dire... j'ai pensé à qu'est-ce qu'il nous a enseigné, en fait, de son existence. Et j'ai utilisé le carton de pizza pour nous dire qu'il avait... il nous permet d'incliner notre regard sur la réalité et de rendre une élasticité à la norme, quoi. Et du coup, il y a eu ce rituel-là des cartons de pizza inclinés sur le cercueil. Il y a eu cette histoire... on leur a demandé de ramener tous un petit objet avec un bruit très énervant, chacun. Et on a fait un concert de petits bruits. C'était magnifique, avec vraiment... des intensités, des choses comme ça. Puis après, on a arrêté. Et ils ont ramené tous une clé et des cadenas. Des cadenas aussi. Mais en fait, l'idée, c'était de dire... il avait peut-être pas toutes les clés pour ouvrir les portes ici, mais il les aura au moins pour ouvrir là-bas, etc. Donc, il y a eu quand même... C'est que des petites choses, mais... ça a remis au cœur, en fait, finalement, l'endroit essentiel qui était qui était aussi la raison de sa mort, qu'il ne se sentait pas à sa place ici. Et donc, c'était aussi accompagner ça, c'était aussi déculpabiliser les parents, c'était aussi remettre au cœur quelque chose qui peut-être qui a toujours été très mal accepté de son vivant, mais en fait, à sa cérémonie, on le remettait au cœur. Donc voilà, et ça, c'était la première cérémonie que j'ai faite en tant que stagiaire. Je pensais pas la faire, mais c'est juste que les parents m'ont choisi. À force de parler avec eux, ils m'ont dit bon, on aimerait bien que ce soit toi. Si j'avais su que je ferais en plus un enfant, enfin bon, voilà, c'était quand même quelque chose, quoi. Mais à ce moment-là, à cette cérémonie-là, c'est un peu étrange à dire, mais il y a eu vraiment un endroit de sens extrême entre mon métier d'artiste et mon métier de maîtresse de cérémonie funéraire. C'est-à-dire, ça ne m'a pas coûté, en fait. C'est quelque chose que je sais faire. C'est juste que je l'ai adapté à du réel, à du concret et pas à de la fiction. C'était magnifique.
Merci Marine.
Avec plaisir.
Pour ce récit.
Nous avons enregistré cet entretien en février 2024 et un mois plus tard, Marine Lanaro, suite à une nouvelle résidence artistique à Nantes, m'a envoyé le pitch de Métamortem. Je vous le lis. Aux funérailles du grand-père, l'officiante s'est trompée de prénom. Les cendres sont tombées en paquet, personne n'a dit un mot. C'était aussi raté que l'enterrement du chat tigrou, aussi raté que l'adieu à notre maison d'enfance, raté l'adieu au terrain vague et l'adieu au glacier de Sarène. Quand il a fondu, qui a pleuré la dernière goutte? Et si tout ça était à refaire? Quand une soirée est ratée, on fait une contre-soirée. Souvent ça se passe dans la cuisine, on est serré, il n'y a rien de prévu, mais le cœur de la fête est là. Oui, faisons ça, une contre-célébration, et vous êtes tous invités, vivants ou non. Au cœur de l'espace public, 200 spectatrices participent à cette revanche. Quel rituel pour aujourd'hui? Quel rire, quelle larme, quel mot, quel geste? Pour qui? Pourquoi? Une maîtresse de contre-cérémonie nous guide dans cette odyssée de la disparition où la parole s'en va, s'en vient, entre visible et invisible, jusqu'à effacer la ligne qui les distingue. Un labyrinthe des possibles d'où surgissent d'autres manières de faire monde. On pourra découvrir Métamortem à la scène nationale Hexagone à Grenoble en juin 2025, puis au TU de Nantes en septembre 2025. Et bien sûr, à plein d'étapes sur son parcours, toutes les informations sur la page du collectif Grand Dehors. On termine en musique avec le collectif Chant Funérailles et le titre « Si mon bien-aimé s'en venait », interprété par Élie Guillou et Marie-Suzanne Deloye.
S'en venait, si mon ami marchait vers moi, de par son pas, je le saurais. Oh, sa démarche me le dirait, à la distance d'une verste, même si deux nous séparaient. En vapeur, je volerai, en volute m'évaderai, ma bouche à ses baisers offerte. En flamèche, je fuserai, en jet de flamme, jaillirai, ma bouche à ses baisers offerte. Oh, sa bouche est faite de bon pain, sa lèvre a l'arôme du miel. Sa lèvre à l'arôme du miel. Oh, sa bouche, je la baiserai. Fut-elle au-delà de la mort? Fut-elle au-delà de la mort? Vite en vapeur, je volerai. En volute, m'évaderai. Ma bouche à ses baisers offerte. En flamèche je fuserai, en jet de flamme jaillirai, ma bouche à ses baisers offerte. Serpent le siège, fut-elle d'un serpent le siège. Oh, ses mains sont belles comme l'or, son cou c'est un brin de bruyère, son cou c'est un brin de bruyère. Bien-aimé s'en venait, si mon ami marchait vers moi, si mon bien-aimé s'en venait.
Je suis Lucille Milliard, la réalisatrice. Merci à Mathilde Cuchet pour l'illustration du podcast et merci à Florian Kuhn pour l'habillage sonore. Retrouvez cet épisode sur Canal B et sur toutes les plateformes de podcasts.